Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Comment se fait-il qu'un corps d'enfant ait pu me troubler ? Cela est étrange et doit être passager, rien de grave. Enfin, après 2 semaines, il est guéri et moi non. J'ai toujours ce trouble et ce désir, oui, car j'ai un désir. Les cours reprennent doucement. Chaque fois que je m'approche de lui, je ne peux pas m'empêcher de le toucher, lui caresser les cheveux, mettre mes mains sur son épaule. Il ne dit rien, ne fait rien, tout lui paraît normal. Il n'a que moi qui trouve tout, ça anormal. Suis-je anormal? Je m'attache de plus en plus à lui. Je crois que je l'aime. J'ai peur. Je suis même un peu jaloux. Je me suis aperçu que lorsque son oncle est venu le voir, s'est accaparé de lui. Ce matin, après une forte toux, il a mis, pour se reposer, sa tête sur ma poitrine. Je lui ai caressé l'oreille. Nous sommes restés ainsi un long moment. Pour faire un exercice, je me suis assis à côté de lui et mis ma main sur son épaule. Puis, je ne sais pourquoi, je descendais ma main le long de son dos. Tout en le caressant, il m'a regardé et m'a donné un baiser rapide sur la joue. Ma mère est arrivée tout de suite après pour le goûter. J'aime ses yeux, ses cheveux, son cou, son corps, l'odeur de sa peau. Je te caresserai jour et nuit. Je l'aime, oui, je l'aime, et lui m'aime aussi. Oh oui, il se fait câlin avec ses gestes, sa voix. Je suis fou, oui, je suis fou d'amour. Il est si doux, si tendre. Voilà plus d'un an que nous sommes ensemble. Je n'y crois pas. Je viens tous les jours depuis plus d'un an et nous vivons le parfait amour. C'est le bonheur, mais il y a un voile dans tout cela. Sa santé qui est très fragile. Le médecin est venu et est formel. Il se mord de tuberculose. Sa vie se termine. Il ne survivra pas. Un rien peut arrêter sa vie. Et ça ne servirait à rien aussi de changer d'air. Il n'y en a plus que pour quelques mois. Sa mère et moi sommes effondrés. Si jeune et condamné, il n'a même pas vécu. Et dans sa chambre, dans son lit, mon petit amour, dont il ne sortira pas vivant de cette chambre. Cette pensée m'étouffe. Ce n'est pas possible. Nous le voyons et ne le voyons s'éteindre de jour en jour comme une petite flamme. Il me regarde et me sourit. Je lui ai acheté un train à vapeur qu'il peut voir fonctionner de son lit. Lorsque je suis seul à son chevet, je l'embrasse, caresse son corps. Lui s'abandonne et me guide dans mes caresses. Malgré sa grande faiblesse et les besoins physiques, encore en éveil. Mais j'ai peur de le fatiguer. Mais ses mains mettent mes mains, les guident. Dans mes étreintes, je n'ai qu'un seul désir, lui prendre sa maladie. Ce matin, il était très faible. Et cette nuit, il a vomi du sang. J'ai peur de le perdre. Que vais-je devenir sans lui? Il va de plus en plus mal. Il délire et tousse. Le médecin dit que c'est la fin. Je suis effondré. À genoux, au pied du lit, j'implore Dieu. Cela fait si longtemps que je n'ai pas prié. Voilà, c'est fait. Je ne peux pas y croire. Oui, j'ai un immense désir de mourir. Oui, je ne veux plus voir personne. C'est de ma faute s'il est mort. Dieu nous a punis. Non, c'est pas possible, ce cercueil. Voilà. Il ne me reste plus qu'à châtier mes péchés. J'ai volé une de ses photos, le représentant sur l'herbe, et elle restera à jamais sur moi. Pour me retirer du monde, je choisis pas le couvent, ce serait trop simple, mais le maquis, l'enfer. Mon bien-aimé, je te garderai toujours dans mon corps. Tu resteras mon seul amour. Un amour coupable, mais un amour. Je vais le purifier en restant fidèle. Oui, fidèle, toujours. L'encre bleue est remplacée par de l'encre de stylo à billes noire. Mai 1950, je reprends mon carnet. Je suis triste, mais en même temps content d'être resté fidèle. Même mes désirs sont toujours les mêmes. J'ai pu dominer l'appel de la chair. J'ai peur de devenir une vieille tante, car je m'aimais à suivre les jeunes garçons dans la rue. Enfin, les jeunes garçons, plutôt les jeunes hommes. C'est terrible. Je ne peux plus me dominer. Juin 1980, mon neveu, je désire ardemment mon neveu. De cela, je ne peux pas. Non, oh non, non, mon petit, non, mon tout petit, protège-moi. J'ai qu'un désir, c'est celui-là, et je n'en veux pas. Je plains ceux qui sont comme moi. Quelle vieillesse les attend. François referme le carnet. Alors, son oncle, lui aussi, a aimé un grand amour de toute une vie. Mais cet amour, malgré sa force, ne l'a pas empêché d'être une vieille tante qui court après les jeunes gens. Est-ce que son amour pour Yves suffira contre les attaques de la chair ? Que sera sa vieillesse à lui ? Non, il vaut mieux mourir jeune. Il éteint la lumière, s'allonge. Que va-t-il faire du carnet ? C'est un journal intime, personne ne doit le lire. Demain, matin, il le jettera dans le Rhône. François attend Yves dans sa chambre. Il lui a téléphoné qu'il viendrait. Voilà près d'une heure qu'il devrait être là. Il tourne. Il tourne dans cette pièce. Il n'aime pas attendre. Il prend sa guitare et se met à jouer quelques accords. Il s'arrête. Au bout d'un moment, ça l'énerve. Il aimerait téléphoner à la grand-mère d'Yves, mais il n'ose pas. Va à la fenêtre. Or, le ciel écrit. Personne. Oui, personne. Personne sur le trottoir. Quelle misère. Et Yves qui n'arrive pas. Pour une fois qu'ils sont seuls chez lui. Le père est parti en voyage, la sœur chez une amie, porte domestique. Et ce Yves, où il est ? Il voit sur la table de chevet l'enveloppe cachetée de sa mère. Les visites lui sont interdites. Interdites et pourquoi ? Il retourne vers la fenêtre. Oh, enfin, il n'est pas soi, Yves. Pourquoi ne se presse-t-il pas ? Chaque minute compte. Il n'est pas pressé d'être avec moi. Ah, enfin, on sonne. À la porte d'entrée. François court ouvrir. Sort de la chambre. Il prend par le bras Yves et l'entraîne dans la chambre. Ne va pas si vite, François. Lâche-moi, tu me fais mal. Je ferme la porte. Pourquoi ce retard ? Dit-il furieux. Pour rien. Je n'avais pas vu le temps passer. Que faisais-tu ? Je disais. Et puis le temps a passé tellement vite et triste que je n'avais pas envie de sortir. Je n'avais pas envie de sortir ? Dit François avec colère. Et sortir ? C'est sortir pour toi de me rejoindre ? C'est sortir d'aller me voir ? Je n'avais pas envie de me voir. François fait le geste de le gifler. Yves se retire et dit furieux. Ça ne va pas, non ? Tu veux tout de même pas me battre ? Il tape des pieds et dit. Je suis là, c'est le principal, non ? François est honteux. Honteux ! Que lui est-il arrivé ? C'est pas dans son caractère. Et à Yves en plus ? Yves ? Va bouder le dos au mur, les mains dans les poches. François reste penaud au milieu de la pièce. Il ne sait que faire. Première scène, première brouille. Souhaitons que ce soit la dernière. François s'approche d'Yves, lui touche le dos. Il se dégage. Je ne veux pas, non. T'es complètement fou. Je t'en prie, je demande pardon. Yves reste le dos au mur. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que j'avais hâte que tu sois auprès de moi. 2 heures d'attente, tu comprends? C'était trop, beaucoup trop. Yves se retourne. C'est de ma faute aussi. Mon retard n'avait pas d'excuse. François s'approche et l'embrasse, lui dit « Oublions tout ça. » Il l'entraîne vers le lit. Ils sont tous deux allongés. François se soulève et embrasse Yves sur la joue. Il se plaque contre lui. Ils sont allongés, tous les deux, l'un contre l'autre, sur le lit. Ils dorment. La chambre est dans la pénombre. De se lever. François se lève, se range et réveille Yves avec un baiser. Il est tard, allons debout, ma soeur ne va pas tarder. Yves se soulève, les traits du visage sont encore endormis. Il est sur le dos. Tu crois qu'il est l'heure? Oui. Dépêche-toi, il est largement l'heure. Il se lève, se range. François lui dit, attends, je vais t'accompagner. Elisabeth de Boisseuil est allongée sur son lit, tout habillée. La chambre est à la demi-pénombre. François est assis près du lit.
Pourquoi es-tu pas venu me voir ?
Sa voix est lente, elle a des difficultés pour mettre de l'ordre dans ses pensées, ses médicaments. Je ne pouvais pas, maman. Les visites t'étaient interdites. Elle haut ses épaules.
Oh, ces docteurs, je les déteste. Je suis comme prisonnière ici. Tu te rends compte que même la nuit, on vient me voir. Voir ce que je fais. Et j'entre dans ma chambre. Cela me réveille. Et puis, j'en ai assez de t'enfermer ici. J'étouffe. Je ne peux même plus réfléchir. Et elles sont même dans mes rêves. Ce sont ces médicaments qui vous abrutissent. Tu diras à ton père que je peux rentrer. Oui, maman. Tu ne serais pas heureux que je rentre à la maison? Aussi, si tu savais comme la maison est triste plutôt que tu nous as quittés. Et puis, cela fait 6 mois déjà. C'est long, maman. Il prend la main de sa mère. C'est vrai, je te manque, mon petit. Et ton ami Yves? Nous voyons toujours. Il va bien. Il a beaucoup grandi ces derniers temps. Vous vous aimez toujours autant? François rougit et gêné. Oui, je l'aime toujours autant. Il s'y attachant. Et puis, il sait se faire aimer. Sa mère soupire.
Parce que tu étais tout petit. Les médecins qui s'occupaient de toi m'avaient dit, celui-là, plus tard, il fera souffrir les filles, vous verrez. Je n'aurais jamais pensé que tu te mettes à aimer les garçons de ton âge. Vous faites toujours des amours?
François baisse la tête et rougit encore plus.
Oui, c'est pas grave à ton âge. Mais les habitudes te prennent vite.
C'est la première fois qu'Elisabeth aborde aussi froidement, franchement, un sujet aussi délicat. D'habitude, elle parle de ces choses avec beaucoup de retenue. Mais la maladie l'a rendue sensible à l'extrême et très compréhensible aux faiblesses des autres. Elle se soulève et dit,
J'aimerais, c'est faire un tour dans le parc. Je peux y aller seule. Ces médicaments m'abrutissent trop pour sortir. Prendre l'air. Je suis obligée d'attendre une visite. Les infirmières ne peuvent pas s'occuper de nous tout le temps. Elles ont trop de travail.
François l'aide à se lever.
J'ai grossi, hein. On me force à manger. Tant que je n'ai pas fini de manger, la femme de service reste près de moi. 2 beefsteaks par jour. Et à 16h, j'ai même un gros goûter. Lait au chocolat, brioche. Attends, je vais mettre ma robe de chambre. Je ne suis pas très présentable. Sur 1 minute, je vais m'habiller. Tu y arriveras toute seule? Oui, te fais pas de soucis.
Est un ancien couvent avec un grand parc. François aide sa mère à marcher. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'est pas sortie. Le grand air lui donne le vertige et les médicaments lui rendent ses mouvements incertains. Les allées du parc sont vides. C'est l'heure des visites. Et puis, il ne fait pas très beau.
Tu veux te reposer sur un banc?
Non. Je suis allongée toute la journée. Ça me fait du bien de prendre l'air. J'ai un peu froid. Je vais te chercher quelque chose. Non. Cela fait du bien.
Il marche en silence. Puis elle dit:
François, tu sais pourquoi je suis malade? Non, ne rougis pas. Tu es le seul qui puisse vraiment me comprendre, puisque toi aussi tu es d'amour. N'aie pas honte de ta mère. Avant ton père, j'ai aimé un autre homme, mais j'ai continué à l'aimer. Je l'aimerai jusqu'à ma mort.
Il était beau, si tu savais, et bon.
Ses yeux s'emplissent de larmes.
Qui ne s'est jamais marié? Lui, toi et moi sommes de la même espèce. Oui, nous restons fidèles à nos amours, et cela fait souffrir. Tu sais, cela fait souffrir.
Il s'arrête de marcher et regarde bien en face son fils.
Depuis que j'ai connu, il n'y a pas un seul jour, une nuit, où j'ai pas pensé à lui. Même lorsque tu es né, j'ai souhaité que tu lui ressemblas.
Elle sourit.
Tu lui ressembles un peu. Je vais te dire un secret. Ce n'est qu'un désir maintenant. C'est d'aller le rejoindre. Non, n'aie pas honte de ta mère. Toi, tu as honte d'aimer.
Ils sont tous les deux dans l'allée, au milieu de l'allée, les larmes aux yeux. Une communion unie, ces deux hommes en peine. Ils se regardent bien, les yeux dans les yeux. François prend la main de sa mère et la serre. Le soir commence à tomber. L'allée est toujours déserte. Ils sont debout, l'un en face de l'autre. Les adieux ont été pénibles. Laissez sa mère en pleurs, qui lui supplie de la faire sortir. Une infirmière qui la retient. Des portes qui se ferment et qui s'ouvrent. Des portes que l'on referme avec de grosses clés. Ces couloirs vides. Vides. et le train. Le train qu'il ramène à Lyon. François pense à sa mère, à leur conversation. Sa mère, qui se mord d'amour, qui lui a confié ses peines à lui, son fils. Il se dit que désormais ils seront à jamais unis. Ces confidences ont renforcé leur union. L'image de sa mère, maintenue par l'infirmière, lui apparaît. Il aimerait pleurer, hurler, retourner en arrière et frapper à la porte de l'établissement. Mais le train file, file, file. Comme le temps qui passe et que l'on ne peut arrêter, on peut l'empêcher de nous amener vers notre destin. La nuit est tombée. Il pleut sur les vitres. François est seul dans son compartiment. Il a l'impression que le train fait un bruit d'enfer. Seul. On est toujours seul face à son destin. Les mois passent, nous sommes en été, bientôt la fin de l'année scolaire qui a été dans l'ensemble assez bonne pour François et Yves. La mère ne va guère mieux et reste en maison. Pour les vacances, François et Yves resteront à Lyon. François à cause de sa mère, Yves parce qu'il veut pas laisser son ami. Ils sont devenus de plus en plus intimes, ont de moins en moins besoin de se parler. Chacun sait ce que pense l'autre. Yves a grandi, mais son corps est resté dans l'ensemble enfant. Son visage a gardé son côté juvénile. Ils sont tous les deux dans la chambre de François, allongé sur le lit, côte à côte. C'est le soir, la maison est vide, le disque tourne, les eaux bleues d'Hawaï. François pousse son bras derrière sa tête et dit « Nous n'irons jamais là-bas. » Il tourne la tête de gauche à droite, prend une bouffée de cigarette, puis la met dans la bouche d'Yves. Qu'un rêve, un beau rêve, un très beau rêve. Voilier bleu, où es-tu? Il se penche vers lui et lui dit, si, nous irons, tu verras. Nous verrons, tu verras. Dehors, il fait nuit. Il pleut. Dans la chambre, il fait très chaud. François et Yves sont tous les deux allongés sur le lit. Ils dorment. La sœur est allongée sur le lit. François est près d'elle. Il fume des cigarettes. François, demain, je vais chez Marie-Laure. Tu veux venir avec moi? Non, merci.
Tu ne sors jamais. C'est pas normal, cela.
Tous les amis de ton âge ont une petite amie. Des amis. Ils sortent, rient, dansent et tout. C'est de ton âge, de notre âge. C'est pas bien de rester ainsi. François ne dit toujours rien. Elle est furieuse.
Se lève et fait les 100 pas dans la chambre.
Mais enfin, ne dois-tu même pas passer toute ta vie avec cette Yves, non? Il faut que tu sortes, voyez du monde. Pense à ton avenir. Que vont penser les gens si vous vivez toujours ensemble?
François se lève furieux. Il sort de la pièce en claquant la porte.
Patricia hausse ses épaules, va vers le cendrier qui est sur la table de nuit, écrase sa cigarette et sort de la pièce, elle aussi en claquant la porte.
François est devant la fenêtre de la salle à manger. Il regarde debout, les mains dans les poches, le soir qui tombe. Elle s'approche de lui, met sa tête sur son épaule.
Je te demande pardon. Je te demande pardon, François. Mais j'ai peur pour toi, pour ton avenir. Tu ressembles tellement à maman. L'amour, c'est beau, mais il ne faut pas que ça prenne toute une vie. Tiens, les hirondelles volent bas, il va pleuvoir. Yves, c'est pas bon pour toi. Non, ne dis rien. On ne dit rien. Je sais, c'est dur. C'est très dur.
Elisabeth enfile son manteau de fourrure avant de sortir du train. Il neige sur Lyon. Nous sommes en décembre. Son mari l'aide à descendre. Elle a grossi. Ses traits sont plus détendus, mais une lumière étrange sort de ses yeux. Le bruit, la foule lui font peur. Elle a hâte d'aller s'allonger dans sa chambre.
François et Patricia attendent au salon avec impatience le retour de leur mère.
La porte s'est ouverte. Elle apparaît.
François et dans le bureau de son père, il marche de long en large. Le père est assis à son bureau, pâle, maigri, blanchi. C'est la maladie de sa femme. Elle n'a pas guéri, elle ne guérira sans nul doute jamais. Elle fait chaque année de longs séjours en maison pour rien. Pour rechuter. François nerveusement continue à marcher de long en large, ce qui agace son père.
Non, je ne ferai pas mon service militaire.
Et pourquoi?
Dit le père agacé. Parce que je ne veux pas.
Tous les jeunes le font.
C'est pas une raison.
Tu te rends compte qu'en ne le faisant pas, tu te fermes des portes à beaucoup de choses. Et puis, ne tourne pas comme ça en rond.
François s'arrête. Reste face à son père. Il soupire et dit :
plus maintenant.
faire son armée, c'était plus que autant, c'était plus autant d'importance qu'à ton époque.
Et d'abord, qu'est-ce qu'ils t'ont dit pendant tes 3 jours ?
Rien de spécial. Je suis bon.
Le père hausse les épaules. Alors, tu es pris.
Non, je peux écrire au président de la République.
Et tu crois qu'il va te répondre ? Et puis, t'as un sacré culot ! Il n'y a pas 15 jours, tu défilais avec des pancartes disant que c'était un vendu. Et maintenant, tu demandes un service ? Quelle génération ?
Pas mieux que la tienne, le père se lève.
Tu veux une gifle ? Pense à ta mère, qui est dans sa chambre, malade. Nous n'allons pas nous battre tout de même. Tu es à un âge où il faut réfléchir à ce que l'on fait. Oui, je sais, tu as 18 ans et major. Malheureusement, l'armée, c'est important. Allez, laisse-moi. J'ai préparé mes dossiers pour mon départ.
Il rajoute d'une voix plus douce.
Pendant mon absence, tu t'occuperas de ta mère. Elle n'est pas bien.
Oui, père, je vous le promets. François et Yves se promènent au parc après le lycée. C'est l'hiver, le lac est gelé, tout est givré, gelé. Les chaussures craquent sur la terre gelée. Il fait soleil, un soleil d'hiver, voilé. François dit, j'ai envoyé la lettre au président de la République. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Je lui ai tout dit, notre amour et tout. Tu as tout dit ? Il ne comprendra pas. Il se moquera de nous.
François regarde Yves.
Pourquoi ? J'étais suffisamment sincère. Je t'aime et je ne veux pas te quitter. Voilà tout. C'est simple, non ? Il veut bien. Il le fait bien pour un garçon et une fille qui s'aiment. Pourquoi ne le ferait-il pas pour 2 garçons qui s'aiment ? L'amour, c'est la même chose. Quand on aime, non ? Il lui dit, oui. Et à ton père, tu as parlé pour nous deux ? Non, j'ai pas pu. Il se préparait pour son voyage. Et puis, il est trop mal pris. Il a trop mal pris ma décision. Tu penses, l'armée pour lui ? Puis il y a ma mère. Alors qu'allons-nous faire à la rentrée ? Je pars pour Grenoble. Tu le sais, pour l'hôtel hôtelière, mon père a écrit à grand-mère. Et il est 10. J'ai pas encore 18 ans, moi. Demande à ton père d'avoir la permission d'attendre un peu pour l'école hôtelière. Que tu aimerais rester encore quelque temps ici, au lycée ? Tu n'es pas sûr de toi ? Dans 2 ans, j'aurai 20 ans. Et toi, 18 ans, ils seront libres. Il demande à François. Que vas-tu faire pour la rentrée ? Je vais prendre des cours de médecine. Je vais être médecin. J'irai à l'université. Nous serons plus ensemble pour les cours. Toutes ces heures sans toi. Heureusement, c'est que nous pouvons nous retrouver après les cours.
François regarde Yves. Son Yves a bien grandi. Mais son visage est resté le même, et toujours aussi enfant. Et lui, a-t-il changé ?
Fait-il plus vieux? Il n'aimerait pas. Il soupire. Que l'avenir semble incertain. On est trop grand ou trop petit? Mon Dieu, que c'est dur la vie. Pourquoi lorsque l'on aime, tout devient si difficile? Yves, j'ai peur. Nous n'aurions jamais dû grandir. C'est trop dur tout ça. Une semaine après, François a reçu de la présidence de la République la dispense pour son service militaire. En plus, il lui a écrit à la main un petit mot avec sa signature. Je comprends ce que peut ressentir le corps d'un jeune homme. Mais faites attention à ce que l'amour ne vous cache pas la vie. Le temps a passé. Elisabeth Boissol est dans sa chambre, allongée sur son lit en robe de chambre. François marche dans la pièce, les mains dans les poches.
Qu'as-tu, mon fils?
François s'arrête près de la fenêtre, les mains dans les poches, et place sa tête contre la vitre. Rien, mère.
Non, dis-moi ce qui ne va pas. Nous ressemblons tous les deux, tu sais. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as quelque chose à me dire. Allons, approche-toi et dis-moi tout. Je peux tout entendre, tu sais bien. Je suis si loin de ce monde.
François s'approche. L'air triste et hésitant se met à genoux tout près de sa mère.
Maman, maman, oui.
Elle se soulève légèrement.
Maman, je veux vous quitter.
Nous quitter?
Oui, mère.
Elle a les larmes aux yeux, il le voit.
Et pour aller où?
À Grenoble.
À Grenoble? Mais pourquoi faire? Et tes études?
J'y continuerai là-bas.
Pourquoi Grenoble?
François rougit.
Yves va à Grenoble, à l'école hôtelière, et nous voulons vivre ensemble. Vivre ensemble?
Oui. Je ne peux plus me passer de lui.
François, tu te rends compte de ce que tu dis?
Oui, mère.
Comment vas-tu faire? Comment va finir cette histoire? Tu gâches ta vie, mon enfant. Non, je ne veux pas. Tu veux me faire mourir?
François est ému jusqu'aux larmes.
Non, maman. Je t'aime. Tu oses dire cela à ta mère? Je suis folle, moi.
Il dit tout doucement.
Tu m'avais dit que tu pouvais, que je pouvais tout te dire. Que tu pouvais tout entendre, tout comprendre.
Oui.
Tu l'aimes, je comprends. Pardonne-moi, mais les mères sont un peu l'occasion d'entendre une chose comme ça. Je comprends que tu l'aimes, mais cet amour n'est pas bon, ni pour toi, ni pour lui. Tu le vois?
vois bien. Lorsqu'il vient chez nous, il peut faire un geste sans ton aide. C'est une vraie poupée. Si tu continues, ta vie se terminera comme la mienne. Pars si tu veux, tu as 20 ans.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.